à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Thibaut Baudin, bonjour.
Bonjour Bruno.
Thibaut Baudin, vous êtes cadre dirigeant à l'AE, dans un groupe bien connu de tout le monde qui s'appelle le groupe Heineken. Et vous dirigez tout un tas de choses pour l'Europe en particulier. Vous avez 42 ans et 3 enfants. Je vous remercie beaucoup d'être venu parce que vous prenez des quelques jours de vacances dans notre région et vous avez pu libérer un peu de votre temps, mais vous êtes bien toute la semaine, toute l'année même à La Haye d'habitude. Donc je voudrais d'abord, si vous le permettez, qu'on parle un peu de votre expérience de catholique à La Haye. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous avez vu une différence dans votre façon d'éduquer vos enfants et de votre façon de vous immerger dans une paroisse par rapport à ce que vous aviez connu jusque-là en France?
Oui, alors c'est vrai que la vie d'un catholique à La Haye, en tout cas aux Pays-Bas, par rapport à ce qu'on a connu en région parisienne avant, est assez différente. D'abord parce que les Pays-Bas, nous, on a été très marqués en arrivant par le fait que Dieu n'existe pas aux Pays-Bas. Et qu'on est vraiment surpris par le fait que les églises elles sont toutes fermées. On ne peut pas rentrer dans une église. Si vous vous promenez comme en France, vous ne pouvez pas ouvrir une porte et puis aller prier, ça, ce n'est pas possible. Et les paroisses sont tenues par les paroissiens. Donc en fait, les seuls financements qu'ont les paroisses sont les dons des paroissiens. Et donc vous gérez votre paroisse comme vous géreriez une entreprise pour financer le prêtre, l'électricité, le chauffage, etc. Et donc quand vous avez besoin par exemple d'une heure pour organiser une louange avec la paroisse, vous devez louer un créneau d'une heure dans une paroisse. Donc vous devez trouver une paroisse qui est disponible à ce créneau-là. Et puis il faut financer ce créneau. Et il vous la loue. Et si d'autres paroissiens d'une autre paroisse font une offre qui est plus avantageuse pour la paroisse, c'est eux qui auront ce créneau-là.
Ah oui, business.
C'est du business. Les Pays-Bas, c'est très étrange. En fait, nous, on a été aussi surpris par le fait qu'on est hypnotisé par le bien-être. On est presque anesthésié par le bien-être et l'organisation de ce pays. On sent très bien, donc la nature est très présente, les gens prennent soin d'eux, ils ont une vie collective qui est très agréable, mais Dieu n'existe pas. Et donc c'est vraiment, même pour nos enfants, je pense que ça a été surprenant. Et d'une certaine façon, le pays est organisé de façon à ce que vous n'ayez pas besoin de Dieu. Parce que c'est vous qui êtes au centre.
Bon, d'abord, c'est quand même un pays protestant. Donc là, vous me dites ça versus catholique, mais pour les protestants, c'est pareil?
On ne les voit pas, en fait. Moi, je suis très surpris de voir... Il y a très peu de... On voit dans les paroisses, mais sinon, la foi est très peu présente. Et même dans l'entreprise, ça m'est arrivé plusieurs fois de témoigner ou discuter avec des collègues. Ils sont très curieux, mais ils ne connaissent pas. Donc je pense que les nouvelles générations sont étrangères à la foi.
Donc il n'y a aucune éducation religieuse, ce qui fait que quand ils vont dans un musée, par exemple, et qu'ils voient des œuvres d'art avec des représentations du Christ, de la Vierge, etc., ils ne comprennent pas
de
qui on parle.
Je pense qu'ils comprennent parce que c'est d'ordre culturel. Mais je veux dire, la pratique de la foi est vraiment absente. Alors après, nous, on est dans une paroisse française, majoritairement des expatriés, donc on retrouve un peu ce qu'on avait trouvé avec le scoutisme pour les enfants, ou nous avec les louanges et la vie paroissiale, parce que c'est une petite communauté qui est la communauté française. On a aussi une paroisse internationale qui est aussi très active, mais je pense que c'est vraiment une petite minorité qui vit un peu, pas recluse, mais qui fait pas partie de la vie sociétale, en tout cas de ce qu'on a pu constater, ouais.
Et donc le besoin de transcendance, le besoin de se dire que il y a une vie après la mort et qu'on tout ça c'est absent, c'est pas le problème.
Alors en tout cas nous ça fait un an qu'on y est, mais j'étais surpris par cette anesthésie, c'est-à-dire que vous êtes tellement bien, tout est organisé, vous vous déplacez en vélo, la nature est dans la ville. Les gens ont du temps pour prendre soin d'eux, ils font beaucoup de sport. Vous êtes dans un environnement et dans une ambiance,
un cocon.
Voilà, dans une espèce de cocon qui vous qui d'une certaine façon, qui vous fait oublier qu'il faut se poser ces questions-là.
Ah oui. Ben, écoutez, c'est un témoignage surprenant parce qu'on n'a pas trop l'habitude, oui, on a du mal à imaginer comment se passe la pratique de notre foi dans d'autres pays. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un qui connaît très bien le Japon et qui nous disait aussi des choses étonnantes. Donc c'est très intéressant. Et donc vous n'avez pas eu quand même de mal à rencontrer à l'école, pour vos enfants, etc. Le catéchisme, par exemple, tout ça...
Tout ça existe. En fait, ouais. Dans les paroisses, la paroisse en l'occurrence française, francophone, tout existe. Donc il y a de l'aumônerie, il y a le catéchisme, il y a du scoutisme, il y a une vie paroissiale.
Ouais.
Elle existe. Mais elle existe. Alors il y a une partie, si je vais être un peu caricatural, mais une partie de cette communauté est vraiment est un groupe qui a rencontré Jésus, donc qui met sa foi au cœur de sa vie, et une autre partie fait ça plus par tradition ou parce que ça fait partie des activités de la paroisse française. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent au scout ou qui viennent à l'aumônerie sans vraiment croire, mais ça fait partie de leur éducation, ça fait partie de la vie.
Des choses qu'ils veulent transmettre.
Exactement, ouais. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes, mais plus par tradition ou par... par attachement à une communauté d'expatriés. Voilà.
Donc, vous vous sentez presque en terre de mission.
On est en terre de mission, mais je pense qu'on est en terre de mission partout maintenant quand on est catholique.
Malheureusement, c'est
ça qui est beau.
Vrai.
Et moi, je trouve ça me donne une joie immense. Je trouve que ça nous rapproche des premiers chrétiens. C'est beau d'être en mission. Et c'est beau d'être en mission dans le monde, c'est beau d'être en mission quand on est à l'étranger, mais quand on était en paroisse à Orgeval avant, on se sentait aussi en mission. Et ça, je trouve que c'est fantastique.
Alors, ça m'amène à vous parler avec vous un peu de tout ce que vous avez fait ou que vous continuez à faire, justement, à titre personnel, en dehors de votre métier qui est, on l'imagine, extrêmement prenant, parce qu'on n'est pas à 42 ans directeur d'une multinationale avec toute l'Europe en responsabilité sans travailler comme un fou, j'imagine. Donc ça, évidemment. Mais à côté de ça, je sais que vous faites plein de choses. Par exemple, que vous êtes occupé d'aumônerie, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos activités, de votre engagement catholique?
Avec plaisir. Alors, il est de deux ordres. Le premier, je pense qu'il est professionnel, et je peux en parler très, très rapidement, et après, d'un point de vue plus privé. Professionnellement, en fait, moi, je considère qu'on ne peut pas être dirigeant ou même professionnel sans que le Seigneur y prenne part. C'est-à-dire que je ne conçois pas mon travail, je ne conçois pas ma mission, je ne conçois pas mes différents postes sans que ce soit fait avec le Seigneur. Et en fait, ça me donne non seulement de la force, mais je pense que ça me donne aussi une part d'efficacité et d'humanité dans un monde où, effectivement, on a des décisions qui sont souvent difficiles à prendre. Mais même dans les petits actes du quotidien, le fait de tout faire avec le Seigneur... donne une dimension complètement nouvelle au travail et au quotidien. Après, du côté plus privé, donc avec Rosalie, ma femme, on est en charge d'un groupe d'aumônerie de terminale et on a lancé le parcours Zaché. En fait, je pense qu'il y a une envie de transmettre. Nous, il nous est arrivé je pense qu'on peut considérer qu'on s'est converti il y a quelques années, vraiment, pour deux raisons. On avait l'adoration perpétuelle juste à côté de chez nous. En fait, on a commencé par adorer. Quand on était en France. Mmh. Et donc ça, je pense que ça nous a complètement convertis. Et petit à petit, on a vraiment mis le Christ au cœur de notre vie, de notre famille, et on a envie de le transmettre. C'est-à-dire qu'on a envie de transmettre que la foi, c'est pas des valeurs, c'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose qui est éloigné ou quelque chose qu'on prend au moment où on en a besoin, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre au cœur de sa vie, parce que le Christ est une personne qui vit en présence, même là, au milieu de nous, maintenant, il est là, il nous inspire, l'Esprit Saint est là, et donc c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de transmettre, donc on le fait auprès des terminales, on a eu envie de le faire aussi avec le parcours Zaché, parce qu'on considère que le parcours Zaché que vous connaissez, c'est le fait de réunifier sa vie, et de remettre tout ça en cohérence, sa vie professionnelle ou sa vie dans le monde, et puis sa vie spirituelle. Et donc on a eu envie de transmettre ça, en tout cas à l'AEL, on est arrivé. Et on a aussi lancé
On vient de lancer
un parcours Zaché avec un petit groupe de personnes qui avaient envie.
Français ou...
Français, oui. Ouais. français. Et il y a un couple de jeunes convertis aussi, qui étaient dont une qui était journaliste, qui a aussi, tous les deux ont vécu une très grande conversion. Donc ils ont une très grande soif.
Il ne faut pas désespérer des journalistes.
Il ne faut pas désespérer des journalistes. Ils ont une immense soif aussi de vivre leur foi dans le monde. Et donc pour revenir à au premier chrétien et puis à ce fait qu'on ait un tout petit reste, c'est tellement beau qu'on a envie de le transmettre. Donc on essaie de voir aussi en discernant avec l'Esprit Saint où est notre place. Donc on a considéré que cette année, enfin en tout cas on a reçu cette année un groupe de terminale, ce parcours Zachée, et puis on est avec d'autres paroissiens, on a lancé une louange une fois par mois, qui est très belle aussi parce que c'est une fois par mois on se retrouve un vendredi soir et on loue, donc c'est une heure de louange et d'adoration. On fait ça avec les frères de Saint-Jean et ça permet aussi là de tout recentrer, c'est-à-dire de remettre notre foi au cœur de notre vie.
Il y a donc une confrérie de Saint-Jean à La
Haye. Oui, il y a une communauté de Saint-Jean.
Une communauté de Saint-Jean.
Ouais.
Ouais. Et ils sont nombreux quand même.
Ils sont quatre là, si je dis pas de bêtises. Ils brassent de la bière d'ailleurs, donc c'est toujours c'est sympathique. On finit les louanges avec un verre de bière. Et ouais, ils sont là, donc eux, ils sont pas dans la communauté française. Ils ont une mission d'évangélisation auprès des Néerlandais, donc au plein cœur de La Haye.
Ouais. D'accord. Et votre épouse, Rosalie, est-ce que, bon, il y a évidemment l'éducation des enfants, mais j'imagine que maintenant, s'ils sont un peu plus grands, elle a aussi des engagements.
Alors Rosalie, oui, elle a deux choses peut-être très intéressantes. La première, c'est l'iconographie. Donc elle a découvert il y a un peu plus de 5 ans les icônes. Et donc elle écrit des icônes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on connaît mal, les icônes. Et pour autant, c'est extrêmement spirituel parce que c'est pas une œuvre d'art. C'est vraiment une porte ouverte.
Ouais.
Et c'est une porte ouverte vers l'éternité. Et donc l'icône est... Je trouve qu'on en a maintenant plein la maison et c'est vrai qu'elles ont une puissance toute particulière. Donc elle écrit des icônes et en même temps elle est aussi sentinelle de la Sainte Famille, donc avec les franciscains de Bruxelles. Donc il y a une communauté de franciscains à Bruxelles où nos enfants vont régulièrement. Et donc c'est une petite communauté, enfin une petite fraternité qui prie le chapelet à travers le monde. Et qui se réunissent régulièrement. Voilà. Et puis après, on essaye aussi d'élever nos enfants dans la foi. Alors, on ne l'a jamais fait de façon, comment dire, imposée ou rigoriste, mais par la joie, d'une part, et par le témoignage que le Christ et que le Seigneur agit dans nos vies. Et on essaie de leur donner un maximum d'expériences qui leur permettent de découvrir que seuls, bon, on n'est pas grand-chose, mais quand on vit avec le Christ, tout est lumineux.
Et beaucoup de chemins s'ouvrent. D'ailleurs, à propos de chemins, je crois savoir que vous avez, avec vos enfants, chaque année, vous faites une partie du pèlerinage. Alors, ce n'est pas le pèlerinage de Saint-Jacques, c'est le pèlerinage des chemins d'Assises.
Exactement.
C'est ça?
Oui, c'est exactement ça. Alors, en fait, on voulait faire les chemins de Saint-Jacques, et en préparant le chemin... On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde sur le chemin et que c'était pas du tout l'esprit qu'on voulait. Nous, on voulait pouvoir marcher dans un dépouillement le plus complet. Et on a découvert que de Vézelay partait un chemin d'Assises qui a été ouvert, je crois, il y a une quinzaine d'années et qui va de Vézelay jusqu'à Assises, qui est un chemin qui est un peu plus rustique, on va dire. Et on a commencé ce chemin. On marche une semaine par été. Et c'est fabuleux parce que on voulait un dépouillement complet à la lumière de Saint-François. On voulait un chemin pauvre, mendiant, et on a découvert ça, on a découvert aussi la joie de cette pauvreté, et ça a été assez bouleversant de voir les enfants, jour après jour, comment dire, rentrer dans une joie profonde, mais une joie simple, la joie du lever de soleil, la joie de marcher seul, la joie de prier en famille, la joie d'avoir du temps pour contempler. Et puis aussi la joie de voir comment le Seigneur nous guide sur ce chemin-là et nous ouvre des portes. On a eu plein de très beaux moments où on n'avait plus rien à manger, où on savait plus où dormir.
Et
le Seigneur,
ah ouais.
Voilà, et des moments incroyables, soit des belles rencontres, soit des gîtes qui s'ouvraient au moment où on arrivait. Donc c'était très beau. Il y a notamment ma fille qui m'avait dit, après 4 ou 5 jours, qui m'a dit « Papa, c'est magnifique, chaque jour j'ai une couche de superficialité qui tombe. »
C'est une très belle expression.
Voilà, et c'était très très beau de voir les enfants découvrir cette joie de l'abandon comme ça au chemin et de cette simplicité aussi, cette espèce de pauvreté. Ça, on a trouvé ça très très beau. Oui.
Et alors, je crois savoir que vous aviez aussi fait un pèlerinage mendiant avec quelques amis, quelques collègues.
Ah oui, alors ça, je le recommande à tous les pères de famille. Surtout quand on a des responsabilités dans les entreprises, c'est un acte de foi et d'abandon qui est magnifique. On a fait ça, c'était après un parcours d'école de charité et de mission pour couple avec l'Emmanuel, et c'est celui qui était responsable de ce groupe qui nous avait dit, bon, écoutez, j'ai quelque chose à vous proposer. Il avait un peu peur de nous le proposer. Il dit, je vous propose qu'on fasse un pèlerinage mendiant pour le pèlerinage des pères de famille à Vézelay. On va partir de
Paris.
Du Sacré-Cœur, ouais.
Oui. Ah, et du Sacré-Cœur à voilà. Paris. Et plein cœur de Paris.
Plein cœur de Paris. On part pieds nus avec rien et on doit rejoindre Vézelay. Et donc le concept, c'était de passer une nuit d'adoration et le lendemain de cette nuit d'adoration, de partir vraiment pieds nus sur le bord du périph avec rien dans ses poches, pas de téléphone, pas d'argent, et de mendier son chemin, de mendier sa nuit, de mendier ses repas jusqu'à Vézelay. Et on partait par binôme.
Et c'est possible, ça.
Et c'est possible. Et c'est exceptionnel. C'est-à-dire que
incroyable.
C'est une expérience d'abandon. Et là aussi, le Seigneur... je peux vous raconter deux histoires rigolotes. La première, c'était... On attendait sur le bord du périphérique et on a attendu, je crois, 2 heures avant que quelqu'un nous prenne. Et puis nous, plein de fougue, on s'est dit, ben, on va évangéliser, on va parler de notre foi. Et on s'est assis dans une voiture, une grosse Mercedes. Et c'était un type... absolument incroyable, qui nous a enseigné pendant quasiment 45 minutes et qui nous racontait sa vie, qui n'était pas chrétien, mais il vivait l'évangile sans le savoir, avec ses enfants, avec sa femme, dans son milieu professionnel. C'était magnifique. On est sortis de là bouleversés par le fait que nous, du coup, on n'avait rien à témoigner quand on écoutait des gens comme ça qui vivaient, eux, l'évangile. Donc, c'était une belle épreuve d'humilité. Et une deuxième anecdote, on était surpris parce qu'on était pris en stop ou accueillis ou nourris que par les plus humbles, en fait, les plus pauvres. C'est souvent le cas. Et on a été pris par une petite camionnette d'un type qui nous disait, voilà, je peux vous emmener jusqu'à je sais plus quel point. J'ai un ami, parce qu'en fait, il allait rendre visite à un de ses amis qui a eu un très grave accident de voiture et qui vivait dans un camping misérable. Et il m'a dit, ben voilà, je passe le voir. On a dit, mais si tu veux, on peut passer le voir aussi. Et puis, on lui offrira une médaille miraculeuse et on sera content de le rencontrer. Et on l'a accompagné jusqu'à ce monsieur qui était allongé, qui était vraiment en mauvais état. On lui a offert, il était irlandais, on lui a offert cette médaille miraculeuse et lui était dans une joie immense. Du coup, celui qui nous avait pris en stop était aussi dans une joie immense. Et on a été tous bouleversés par ce moment de fraternité qui était complètement, qui n'était pas du tout planifié, mais qui nous a vraiment remplis de joie. Et tout ce chemin-là, en fait, moi j'invite aussi à faire cette expérience-là en groupe parce que c'est vraiment... Premièrement, une vraie décision d'abandon, parce que se promener pieds nus sans rien, ça arrive quand même pas tous les jours.
Ouais.
D'expérience de la charité, donc et de voir à quel point les gens ont un grand cœur et ils savent pas toujours le relier au fait que c'est le Seigneur qui est au fond de ce cœur. Mais c'est un très beau témoignage d'abandon, de simplicité, de pauvreté. Et surtout, c'est comme la marche sur Assise. Là aussi, le fruit, c'est la joie. Et on est arrivé à Vézelay avec tous ces pères de famille qui avaient marché, qui avaient eux tous fait.
Et qui avaient les pieds en mauvais état, j'imagine.
Les pieds en mauvais état. Et nous, on était là, tout simple, dépouillés, mais dans une joie mais absolument immense.
Oui. Voilà. Ah ben c'est un très beau témoignage, merci beaucoup. Dans les quelques minutes qui nous restent, je voudrais vous demander, en remontant sur le fait que vous êtes quand même dirigeant toute l'Europe d'une multinationale, comment est-ce qu'on peut diriger une entreprise capitaliste qui a quand même pour vocation de faire des bénéfices et rester en accord avec la doctrine sociale de l'Église? Comment peut-on, lorsqu'il y a des problèmes de restructuration qui sont finalement monnaie courante dans les grands groupes, comment fait-on pour gérer ça avec la foi que vous témoignez avec nous?
Alors c'est un dilemme au quotidien, mais alors moi je suis en charge de la transformation pour l'Europe chez Heineken, donc c'est vrai que c'est pas un sujet qui est évident et justement votre question tombe un peu à pic parce que c'est je suis en pleine transformation là. On a pris des grandes décisions pour l'avenir d'Heineken. Alors je pense que pour répondre à votre question, je mettrai il y a deux éléments. Le premier c'est la partie plutôt rationnelle, c'est-à-dire le pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on se transforme et vers quoi on va. Et ça, dans la majorité des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, en l'occurrence chez Heineken, le pourquoi et la direction dans laquelle on va est juste. C'est-à-dire que c'est encore une famille qui est à la tête de l'entreprise. Donc on a plutôt un raisonnement long terme quand on prend ces décisions-là ou quand on investit ou quand on restructure. Et donc moi, la première chose que je fais, c'est d'abord d'analyser les décisions qu'on doit prendre ou les situations d'un point de vue rationnel. Et la restructuration, c'est souvent pour, en tout cas, quand c'est pas court-termiste et pour uniquement pour le bénéfice des actionnaires, il y a quand même
c'est une vision long terme.
C'est une vision long terme, donc on construit quelque chose qui sera meilleur pour l'entreprise ou qui permet d'adapter l'entreprise à un marché qui est en plein bouleversement. Depuis le Covid, quand même, ça secoue. Donc on peut pas rester sans rien faire. Donc on a à prendre des décisions qui sont des décisions qui sont souvent pas faciles. Donc ça, c'est le premier point, c'est rationnellement que le pourquoi et que la vision long terme soit juste et donc en accord avec la doctrine sociale de l'Église. Il y a un deuxième élément qui est peut-être dans la façon de le faire. Et donc là aussi, on peut être chrétien dans la façon de le faire, c'est-à-dire la façon dont on va prendre la décision, la façon dont on va accompagner les salariés, la façon dont on va s'assurer que tout le monde comprenne pourquoi on le fait, le rapport qu'on va instaurer entre la région et les pays. Moi, je passe beaucoup de temps dans les pays parce que je considère que mon métier est un métier de service. Donc, et avec mes équipes, c'est comme ça que j'essaie de définir. Je parle du servant leadership, donc c'est vraiment le fait d'être au service d'eux. Et donc, j'ai demandé aux équipes d'être présentes dans les pays. Donc on passe beaucoup de temps aussi à accompagner pour que la façon dont ces restructurations ou transformations se font se fasse de façon vraiment humaine. Et après, il y a un dernier élément qui m'est apparu peut-être plus récemment, c'est le fait que là aussi, le Seigneur est présent. C'est-à-dire que moi, je considère que je suis qu'un vecteur ou qu'un instrument, mais qu'au fond, c'est le Seigneur qui agit. Donc moi, j'ai confié toutes ces restructurations, ces transformations au Seigneur et je lui demande de les bénir. Et pour les décisions difficiles qu'on a eu à prendre, j'ai la conviction que on peut demander au Seigneur d'accompagner aussi et d'agir dans la vie de ceux qui sont impactés par ces restructurations de façon très concrète. Et je l'ai fait récemment pour des grosses décisions qu'on a dû prendre en demandant au Seigneur de protéger les salariés qui étaient impactés, de s'assurer qu'il n'y avait pas de division dans les familles, que les messages seraient accueillis de façon apaisée, que ceux qui amèneraient les messages le fassent aussi de façon humaine. Et c'est incroyable quand on confie au Seigneur aussi ces parts très professionnelles, très, comment dire, pratiques de la vie de l'entreprise, il sait les transformer en bien et il sait le faire de façon mieux que nous, de façon très très apaisée. Il a été charpentier, donc il sait ce que c'est qu'une entreprise, il a eu des clients, il a eu de la trésorerie à gérer, il a eu... Donc tout ça, il connaît, et il a certainement dû prendre des décisions. Donc en fait, moi j'ai aussi découvert que on peut vivre sa foi de façon extrêmement concrète dans
au fil de l'eau, ouais, dans tous nos actes.
Exactement.
Mais ce que vous me dites me fait penser à une interview d'un collègue universitaire il y a quelques semaines qui nous avait recommandé la lecture d'un ouvrage qui a beaucoup de succès aux États-Unis où justement la personne qui a écrit l'ouvrage explique que c'est tous les jours que la rencontre avec le Christ, avec la foi catholique, c'est pas une fois par semaine le dimanche, c'est en fait au quotidien, tous les jours, qu'on peut le mettre en œuvre, y compris lorsqu'on est universitaire, qu'on fait de la recherche, qu'on va dans des colloques. Là, je vois que finalement, dans la vie de l'entreprise, vous me dites la même chose, c'est tous les jours au quotidien.
Ah, c'est tous les jours au quotidien, et ça transforme le quotidien. Et surtout, ça nous remet à notre place en tant qu'hommes. Donc, je sais que même les talents qu'on a tous, les capacités qu'on a, les compétences, on les a acquises, mais elles nous sont offertes par le Seigneur. Donc, moi, je sais qu'elles ne m'appartiennent pas. Et je sais que quand c'est lui qui œuvre, même quand j'ai des prises de parole, que ça m'arrive quand même régulièrement d'être sur scène pour présenter ou pour expliquer ou pour convaincre, ben quand je demande au Seigneur d'agir, et ben le message passe de façon beaucoup plus juste.
Eh bien Thibaut Boisdin, merci beaucoup pour ce message d'espoir et pour tous vos témoignages. Cette émission est maintenant terminée. Merci encore.
Merci Bruno, merci beaucoup.